tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons étudier un texte apocalyptique qui va nous parler du jugement dernier. Et ce texte se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront assemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père ». Recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. »
La deuxième lecture du jour se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 20 à 28. Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ tous recevront la vie, mais chacun à son rang. D'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira « Tout est soumis », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a tout soumis. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous.
Dixit, Dixit, Dominus Deo, Dixit, 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 Dominus Deo.
texte du jour, que l'on intitule généralement le jugement dernier, forme la dernière partie du discours de Jésus à ses disciples. Et ce jugement s'y annonce avec la solennité attendue d'un jour d'Apocalypse. L'arbitre sera le Fils de l'homme. Conformément à la prophétie de Daniel, il paraîtra dans son éclat, escorté de tous ses anges, et siégera sur un trône de gloire. Le Fils de l'homme, si modeste ici-bas, n'échapperait donc pas là-haut à l'ivresse que procure, chez presque tous, la gloire conquise et les excès de la puissance ? En ce sens, il serait bien fils des hommes, et Dieu à leur parfaite ressemblance.
Comment comprendre ce texte ? Voilà des siècles que le christianisme proclame que Dieu est amour, pour tous, sans exclusive. Il s'agit d'une affirmation primordiale, parce que s'y joue toute compréhension de la mort et de la résurrection du Christ, d'une affirmation construite bibliquement, page par page, prière après prière, génération après génération. Mais il y a ce texte, et bien d'autres. Éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits par Dieu, allez dans le feu éternel. Est-ce cela l'amour de Dieu ? L'amour du Christ pour moi ? Cela fait plutôt désordre, non ? Voir des dégâts dans les cœurs comme dans les têtes. Alors que faire ?
Prendre des ciseaux et découper tout ce qui nous dérange ? Ou oublier ces textes ? Ou alors les privilégier ? Certains s'en réclament pour aller deux à deux frapper à nos portes, promettant la damnation à ceux qui ne le rejoignent pas dans leur secte. On peut encore les minimiser. Il ne s'agirait que d'une exhortation à une foi plus active. Et puis, le bruit des bottes ecclésiastiques, le poids sur les consciences, la subversion de la liberté évangélique en une morale à deux sous. Le paradoxe est violent. Amour, pardon, miséricorde sont les mots-clés de l'Évangile, mais ces textes de rejet sont là. Encore une fois, que faire ?
Il y a bien longtemps, un jour, à Bâle, deux hommes discutent à la terrasse d'un café. Le premier est Urs von Balthasar, l'un des plus grands penseurs catholiques du XXe siècle. Le second est Karl Barth, l'un des plus grands penseurs protestants. Passe un chrétien qui reconnaît les deux hommes et les interpelle. « Messieurs, s'il vous plaît, une question me préoccupe depuis toujours. Est-ce que l'enfer existe ?» Et voici que nos deux experts éclatent de rire. « Mais bien sûr que l'enfer existe, » énonce l'un. Et l'autre ajoute « Mais il est vide. »
L'enfer serait donc vide, mais peut-être pas complètement. Le Christ me jugera au jour de ma mort, ou mille siècles plus tard, qu'importe. Mais j'attends ce jugement, je l'espère, parce que je me verrai mieux que je ne me serais jamais vu par mes propres yeux. Je pense que cela ressemblera à ce que racontent certains accidentés lorsqu'ils disent revoir toute leur vie en accéléré en quelques secondes. Le Christ déroulera ainsi toute notre vie devant ses propres yeux et il séparera le bon grain de l'ivraie.
Sur quelle base serons-nous jugés ? Nous le savons en fait parfaitement. Même un petit enfant comprend les commandements de Jésus, dont celui-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous savons très bien ce que Dieu espère de nous. Au jour du jugement, chaque instant de notre vie humaine sera passé au crible de sa volonté. Rien de plus simple au fond. Ce qui aura été conforme à sa volonté sera gardé et ressuscité. Ce qui n'aura pas été conforme sera jeté. Pas de balance de nos actes, pas de solde comptable qui vaudrait aux uns le paradis et aux autres l'enfer.
Le jugement n'est pas le tri entre les bons et les méchants, mais le tri en chaque vie de ce qui a répondu, ou pas, à la volonté de Dieu, à l'espoir qu'il a mis en nous. C'est pourquoi l'enfer n'est pas complètement vide. On doit y trouver des bouts, des morceaux de vie, de chaque vie. On y trouvera ce que nous avons humainement raté. toutes les obscurités que nous n'avons pas réussi à évangéliser, tout ce qui en nous n'a pas été à la hauteur de son exigence d'amour et ne devait donc pas ou ne pouvait pas entrer en éternité.
A contrario, est-ce possible qu'une vie humaine ne soit habitée que par le mal ? Est-il possible que quelqu'un dans toute sa vie ne fasse rien qui soit de l'ordre du bien et du beau ? Est-il possible que dans une vie, il n'y ait rien que Dieu veuille ressusciter ? Radio Grand Ciel, avec à la technique Simon Martin, Église protestante unie, nous vous parlons aujourd'hui du jugement dernier. Les musiques sont des extraits du Dixit Dominus de Handel, avec Nathalie Dessay, dans le concert d'Astrée.
En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, Jésus nous invite à considérer tous nos frères, et plus particulièrement le pauvre, si émacié soit sa face, car il est l'image du Christ. Une transcendance l'habite.
Les sociétés anciennes séparaient les hommes en catégories étanches et hiérarchisées. Hommes, oui, mais plus ou moins selon le sexe, le rang, la fortune, la race, la nation, le mérite. Nous sommes loin d'avoir résilié ces catégories, et nous maintenons des degrés dans l'estime que nous portons à nos semblables, perçus dans leur dissemblance, suivant leur rôle et leur prestige.
La prédication du Christ retentit donc comme une sommation toujours audacieuse. Égaux, oui, tous, mais il va plus loin, selon un renversement auquel tout l'Évangile nous a accoutumés. Il dépose dans le plus petit le signe le plus haut de sa divinité. C'est le pauvre qu'il choisit comme ambassadeur de sa gloire.
Non qu'il exalte la pauvreté comme telle. La pauvreté reste une souffrance. Et le pauvre, quoique dispensé des tentations de la puissance, dont on sait qu'elle rend souvent fou, n'apparaît cependant pas ici comme l'innocent et le modèle à imiter. Jésus dit simplement « Je suis présent en tout homme et d'abord » en celui qui souffre.
L'homme passe infiniment l'homme, dit Pascal. Il est toujours plus grand aux yeux du Christ que ce qu'il devient, ce qu'il se croit ou ce que les autres en font. Cette présence affirmée de Dieu dans le pauvre porte la modernité de la foi. Le Christ ne recueille pas les hommages des créatures du haut de son trône. C'est le jour du jugement. Le décor est majestueusement planté. Les anges sont mobilisés, la gloire embrase les cieux, toutes les nations tremblent aux pieds du juge, mais le cœur ne suit pas.
Le Christ de justice reste le même. Celui qui est né dans une étable, qui a lavé les pieds de ses disciples, qui a souffert sous Ponce Pilate, puis est mort sur une croix. Il n'a voulu d'autre gloire que celle de servir et de s'anéantir pour nous faire grandir jusqu'à lui-même ressuscité.
C'est encore dans le malheur des hommes qui sculpte son visage. Il se laisse reconnaître au stigmate de ses épreuves par Thomas, quand Thomas demande à voir la marque des clous, la plaie au côté, tandis que deux autres disciples ne le reconnaîtront qu'en ce geste de service par excellence, la fraction du pain.
Tel est le mystère du Christ, son identité, avant, pendant, ensuite et toujours, épuisée dans l'altérité. Le mystère du Christ est dans sa passion de l'autre, dans ce génie de l'autre dont parle un théologien, et qui lui fait perdre sa divinité pour nous la communiquer. C'est la face la plus pauvre qui le représente, parce que ce pauvre est exposé plus que quiconque au déni de l'humanité. Et parce que tant qu'il subsistera un pauvre, Jésus sera à ses côtés, fidèle accompagnateur, jusqu'au dernier.
Jésus va cesser de parler à ses disciples. Ce grand discours, il en fera entendre l'écho dans la toute dernière parole qu'il leur adressera. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les disciples sauront où le retrouver. Ceux qu'ils croiseront sur leur route avec leur corps harassé, leur âme en dérive, seront habités de la présence du Christ, forte d'obligation aussi. Ils reconnaîtront en eux le visage de leur maître.
Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. ce que vous n'avez pas fait à l'un de ses plus petits, vous ne me l'avez pas fait non plus. » Bien sûr, on ne saurait prendre cette parole du Christ comme une survalorisation de l'action au détriment de l'intériorité et de la contemplation.
Ce serait le comble que celui qui est l'être spirituel par excellence nous détourne ainsi. On sait qu'une vie chrétienne équilibrée se pose en quatre piliers. La prière, au sens de notre relation personnelle avec Dieu, l'intelligence de la foi, la vie sacramentelle et l'action pour autrui, pour notre prochain, à commencer par les plus petits, dans et hors de l'Église.
Mais aucun de ces piliers ne se suffit à lui-même. C'est leur articulation les uns aux autres qui nous porte et nous construit spirituellement. Il reste que, aujourd'hui, le jugement de Dieu ne se fonde ni sur la qualité de notre vie de prière, ni sur notre intelligence de la foi, ni sur notre pratique religieuse et sacramentelle, mais sur ce que notre vie spirituelle a mis en route ou pas. Ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait à l'un de ses plus petits.
Ici, le Christ tranche le vieux débat grec entre action et inaction, en associant les deux. Car en matière de vie spirituelle, action et inaction sont indispensables l'un à l'autre. Une foi qui exclut l'action pour autrui est une imposture. Le bonheur est dans l'autre, et c'est sur notre souci d'autrui que Christ nous jugera. Amen. Je vous propose une prière. Pas facile, Seigneur, de faire silence quand tout s'agite autour de nous. Pas facile de reconnaître le murmure de ta voix parmi tous les bruits du monde. Pas facile, Seigneur, de recevoir ton message de paix quand tant de violence se déchaîne autour de nous. Mais Seigneur, aujourd'hui, je vais prendre le temps. Le temps de poser mon regard sur les choses de tous les jours et les voir autrement. Ces choses que chaque matin je croise sans voir, toutes ces choses familières que je côtoie à longueur de journée, de mois, d'année. Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer. Toi, notre Dieu, au-delà des mots, des formules et des habitudes, je veux te retrouver toi. Je veux te confier tout ce qui me préoccupe et m'éloigne de la pensée de toi. Et déposer à tes pieds mes fardeaux. Amen. Je vous dis au revoir et je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.